Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et vous écoutez Délibéré, l'émission qui donne la parole aux plus jeunes militants et militantes, trop souvent laissés de côté. Aujourd'hui, pour cause de vacances scolaires qui commencent après une semaine de partiel, enfin terminée, merci, Délibéré vous propose une équipe très réduite, composée d'Alix. Bonjour Alix.
Salut.
Et moi-même, donc Shirka, qui assure également la technique en ce samedi matin. Alors, de quoi allons-nous parler ce samedi? Entre la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites, on pourrait penser que les jeunes générations, dont nous faisons partie, ne se sentent pas vraiment concernés par les luttes actuelles. Mais méfiez-vous, dans le projet de destruction totale du service public orchestré par la Macronie, on trouve aussi un point éducation. Et vous allez voir, il a de quoi nous faire réagir. Au menu de notre indignation, on trouve une réforme de l'enseignement professionnel, la fermeture de plusieurs lycées parisiens, et bien sûr Parcoursup, l'innommable plateforme de sélection à l'entrée du supérieur. Et pour nous parler de tous ces sujets, nous avons invité Mathis, lycéen de banlieue parisienne, très impliqué dans les luttes de son établissement. Malheureusement, il ne pourra pas débattre avec nous en direct ce matin, pour la simple et bonne raison qu'il est actuellement en cours, donc excuse imparable évidemment. Nous allons donc rediffuser son témoignage en deux parties. Une première, où il nous décrit un peu son parcours et ce qui l'a motivé à se mobiliser avec ses camarades dans les luttes de son établissement. Puis une seconde partie sur les luttes qu'il a menées ces derniers mois avec ses camarades. Si ce programme vous convient, je propose de ne plus attendre une seconde de plus et de retrouver Mathis pour la première partie de son témoignage. Bonjour Mathis, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Alors, on précise qu'on n'est pas en direct parce qu'effectivement, tu avais des contraintes liées à ton statut de lycéen.
Tout à fait.
Voilà, donc merci beaucoup d'être là pour nous parler justement des luttes qui se déroulent parmi les lycéens en ce moment, surtout par rapport au lycée pro et puis à Parcoursup. Mais avant de parler de tout ça, parce que ça c'est un gros morceau et je pense qu'on va passer un certain temps sur ces réformes-là, j'aimerais quand même que tu te présentes et que tu nous dises un peu d'où tu viens.
Bah, pour me présenter, donc moi je m'appelle Mathis. Et je viens d'une ville qui s'appelle Montrouge, qui est une ville plutôt, on va dire, classe moyenne sup, quelque part, avec un peu de mixité sociale. Et donc mon lycée est un lycée qui prend en charge les lycéens de Bagneux et de Montrouge aussi, et un peu d'Arcueil. Donc finalement, on est dans un lycée avec une grande mixité sociale et qui est plutôt calme, on va dire.
Et du coup, ton lycée, etc., toi, tu considères que voilà, il y a plutôt une bonne ambiance, tu es bien intégré
Alors moi, bah, oui, forcément, j'y suis bien intégré. Après, c'est pas forcément le cas de beaucoup, de tous les élèves. Il y a eu le Covid, évidemment, qui est passé par là, qui a fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui se sont sentis mal après, qui ont développé une phobie scolaire. Et d'ailleurs, il y a un mépris qui est ressenti par certains élèves de la part des professeurs envers eux, mais pareil de l'administration, puisque aussi, il faut savoir qu'on est un lycée dans lequel on n'a pas énormément développé les activités scolaires et la vie à l'intérieur du lycée. Donc on est dans un cadre quand même qui est extrêmement rigide. On va plus se concentrer sur les études finalement.
Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que si tu es là, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que tu milites beaucoup. Tu es très sensible à beaucoup de luttes actuelles et tu vas nous expliquer pourquoi sans doute. Mais en fait, tu nous dis là que le Covid, ça a créé pas mal de distance au-delà des troubles psychologiques qui me sont maintenant avérés et reconnus et auxquels on n'apporte aucune solution. Mais oui, voilà, pour moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur cette période. Ça a été vraiment un déclencheur pour toi politique ou pas ?
Bah oui, tout à fait. Donc moi, le Covid, ça a été un peu mon déclencheur finalement, parce que je me suis retrouvé en autonomie face à mon ordinateur une semaine sur deux, la moitié du jour, enfin la moitié de la journée. Et donc je devais travailler en autonomie et ça m'a au final libéré du temps, ce qui m'a permis non seulement de faire du sport, mais aussi par le biais d'Internet, parce qu'évidemment, vient l'ennui quand on est tout seul. De découvrir la politique. Et donc, cette politique-là, je l'ai découverte par le biais de l'environnement et la crise climatique, de l'effondrement de la biodiversité. Et donc, c'est en baladant sur Internet, tout simplement, que j'ai découvert ça.
Ouais, c'est formidable en fait. Là, tu es en train de me dire que du coup, dans une période où tous les gens décrochaient, toi, tu t'es dit finalement, oh, bah, c'est pas mal, allez, profitons du temps qui m'est imparti pour me politiser, pour m'informer sur l'écologie, sur l'état du monde actuel.
C'est ça.
C'est impressionnant.
Et oui, plus loin que ça, pendant cette période-là, ce qui, je trouve, a été pas mal, c'est qu'étant donné qu'on avait beaucoup plus de temps, qu'il y avait moins de voitures dans les rues avec le télétravail, ou sinon les gens qui étaient en chômage partiel ou pas, bah, ça a pu me libérer du temps pour tout simplement prendre soin de moi. Parce que finalement, depuis qu'on est petit et qu'on est à l'école, on nous apprend à seulement travailler, à faire ce qu'on a à faire, mais on ne prend pas le temps de prendre soin de nous, de faire du sport, d'aller voir nos proches, etc. Et donc, cette période-là, elle m'a permis aussi de renouer des liens avec, par exemple, les grands-parents, les amis, etc. Et donc, justement, aussi de découvrir la politique. Et donc, cette découverte de la politique, si je peux continuer, elle s'est faite tout simplement par le fait que, par le biais de la crise environnementale, dont je me suis rendu compte, je me suis rendu compte aussi que cette crise environnementale était le fruit de résultantes politiques et économiques, et de choix politiques et économiques. Et donc, justement, ça m'a amené tout de suite sur la politique, et je me suis en fait rendu compte que les habits qu'on porte, ce qu'on mange, l'air qu'on respire, même maintenant, là on marche, bon bref, tout ce qui touche plus ou moins, de près ou de loin, aux communautés humaines, est régi par le politique, tout simplement.
Bah en fait, c'est vraiment ça, se dire qu'on ne va pas se résigner face à toutes ces constatations quand même qui sont déprimantes et démoralisantes vis-à-vis de l'environnement. Et on dit toujours, on parle d'éco-anxiété, tout ça, et toi, au contraire, ça ne t'a pas du tout fait cet effet-là. Tu t'es dit, bah non, en réalité, il y a un moyen pour changer ça, c'est de s'investir en politique.
Ouais, enfin, au début, il est vrai que j'ai assez mal vécu justement ça, et ça a créé un peu un traumatisme en moi, quelque part. Mais j'ai su par le biais de la philosophie, et j'ai découvert d'ailleurs la philosophie stoïque, qui m'a permis de traverser le moment, on va dire, et de le rendre, et de rendre justement cette espèce de frustration que j'avais en moi et ce mal-être en quelque chose de plus constructif. Et finalement, le fait de passer à l'action, de rentrer dans la lutte, aussi bien la lutte sociale, la lutte des classes, la lutte pour l'écologie, pour les droits des femmes, pour les LGBT, et je pense que je pourrais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup. Mais justement, ça permet de rentrer dans le dur et d'essayer de changer les choses avec nos petits moyens, avec nos bras.
L'écologie, ça t'a quand même amené à la lutte des classes, ça t'a quand même amené
bien
aux luttes LGBT.
Parce que le fait est que moi, il faut savoir que je ne suis pas de base communiste ou anarchiste ou bien d'une idéologie quelconque. Le fait est que on vit dans un monde qui a des contraintes physiques. Et quand on regarde ces contraintes physiques et qu'on regarde la manière dont les communautés humaines fonctionnent, dont elles se répartissent leurs richesses, etc., on se rend vite compte qu'au final, la résultante écologiste, la écologique, la sixième extinction de masse, la montée de la température, parce que pour vous rendre compte, là on est sur une trajectoire à plus 4,5 degrés, donc imaginez-vous quand vous avez de la fièvre à plus 1 degré, vous êtes au lit, vous êtes à moitié en train de crever, alors... au niveau de la planète, plus 4,5 degrés, c'est juste énorme.
C'est complètement ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même considérer que notre organisme, en réalité, ça fait partie d'un organisme plus grand qui s'appelle la Terre, et il faut en prendre soin.
Voilà.
Et c'est drôle parce qu'on avait fait notre dernière émission justement sur l'écologie et les luttes étudiantes. Alors, ça aurait été bien que tu viennes la dernière fois pour nous parler des luttes lycéennes par rapport à l'écologie. Est-ce que tu as fait concrètement des choses avec peut-être des camarades militants ou pas, ou peut-être tout seul, dans ton lycée par rapport à ces luttes écologiques-là?
Bah alors, dans mon lycée, forcément, comme je vous l'ai dit, les choses sont plutôt compliquées. On a une administration qui est plutôt verticale, même si elle tend aujourd'hui à s'ouvrir avec l'arrivée d'un nouveau proviseur. Et il faut savoir que je suis à peu près élu partout dans les instances du lycée. Donc j'assiste à toutes les réunions, etc. Et donc on a un club écologique qui essaye de faire des choses, mais après évidemment c'est des changements à petite échelle, donc on sait très bien que le plus gros du problème n'est pas là, et que pour régler la question écologique, il faut forcément employer des moyens qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus grands, et que seul l'État et certainement les entreprises, mais sous le joug de l'État, peuvent employer. Mais donc oui, il y a le tri des papiers, si vous voulez... On voudrait utiliser
plus de... C'est déjà quand même la base, hein,
c'est déjà quand même la base, bien sûr,
mais
je dis ça parce que il y a beaucoup de lycées où aujourd'hui on ne fait pas encore du tri de papier, et c'est assez terrible de
il y a beaucoup de facs aussi,
et de facs, bon ben voilà, pareil,
je compatis.
alors que pourtant on a juste mis des petites boîtes en carton finalement dans lesquelles on range le papier. Mais après on travaille aussi surtout sur tout ce qui va être réutilisation de matériaux. On apprend aux élèves par le biais du club écologique, qui a pas beaucoup de succès je dois l'avouer, puisque malheureusement on n'a pas les moyens, ou bien en tout cas on prend pas le temps aujourd'hui encore, et on n'a pas trouvé la bonne solution pour toucher plus d'élèves que ça à la cause écologique. Et donc on leur apprend à finalement être des citoyens qui vont dans le futur émettre un ou deux tonnes de CO2 par an.
C'est un vaste projet déjà.
projet.
Mais d'ailleurs, il n'y a pas des cours d'enseignement moral et civique au collège? Non, ça vient au lycée.
Alors au lycée, oui, il y en a des cours d'enseignement moral et civique. Et on en a aussi au collège. Le fait est qu'aujourd'hui, dans les programmes, on n'a toujours pas de matière qui réellement traite spécifiquement de la question écologique. Et
dans l'enseignement moral et civique, ça fait partie de
l'enseignement moral et civique. Non, il n'y a pas vraiment de programme. En tout cas, moi, mais les professeurs que j'ai, c'est un peu en mode à la wine again, si je puis dire. Et non, on n'aborde pas forcément la question de l'écologie, mais après, avec tous les événements aussi qu'il y a eu du point de vue social, comme par exemple l'assassinat de Samuel Paty, etc., ça a remis des questions au centre du débat, qui sont extrêmement importantes, bien sûr, mais qui ne vont pas être directement liées à notre destin futur. Donc c'est plus ces questions-là d'ordre civique et d'ordre sociétal qui vont apparaître dans ces débats-là en EMC, comme la Coupe du Monde au Qatar, par exemple.
Vous avez des débats sur la Coupe du Monde au Qatar avec vos camarades?
Ça se passe très très mal.
Ah oui, c'est vrai, c'est clivant.
Mais c'est extrêmement clivant parce qu'en fait, finalement, on a des personnes qui viennent aussi de quartiers populaires qui vont défendre corps et âme les footballeurs, le fait qu'ils gagnent des milliards d'euros sans se rendre compte de ce que ça représente. Pour ordre d'idée, il me semble que 1 million de secondes, oui, c'est ça. C'est à peu près 11 jours, alors que 1 milliard de secondes, ça représente 30 ans. Donc on est sur ces ordres-là de grandeur. Donc oui, il y a des élèves qui défendent évidemment la rémunération des footballeurs, qui défendent le fait que des ouvriers soient morts pour créer ces stades, que les stades soient climatisés en plein Qatar, etc. Ça ne pose pas de problème, et alors que eux-mêmes pourraient être ces ouvriers, je veux dire, du fait de leur situation et de leurs conditions sociales. Et aussi le fait que un pays comme le Qatar, qui finalement va encore aujourd'hui tuer des personnes, enfin qui n'a pas aboli la peine de mort, qui a une justice qui est extrêmement aléatoire quand même. Il faut accepter le pays dans lequel on est, et si on n'est pas content, on part, quoi.
Ouais, c'est super intéressant de mener ce type de débat avec tes camarades. Je pense que c'est vraiment c'est une nécessité. Parce que comme tu dis, justement, il y a aussi peut-être des différences sociales qui peuvent parfois masquer certaines problématiques. Et oui, on est fasciné par telle rémunération de tel joueur de football, mais peut-être qu'il faudrait faire attention.
Ah non, mais le fait est que leur jeu est tellement beau, et ils ont un jeu de jambes tellement beau que forcément ça mérite
cette rémunération.
Mais voilà, c'est ça.
Mais bon.
C'est la rémunération au talent.
Voilà, voilà. Donc, du coup, dans ton établissement, vous organisez ce genre de débat, vous organisez des actions, on va dire, à l'échelle locale pour essayer de faire avancer les choses, notamment grâce à ce groupe écolo. Est-ce que vous avez d'autres façons de lutter, ou est-ce que ça se passe plutôt à l'extérieur de l'établissement?
Voilà, ça c'est plus ou moins la lutte interne. Après, au sein des conseils d'administration, évidemment, moi je vais aborder tout ce qui va être question écologique à chaque fois. D'ailleurs, au dernier conseil d'administration, qui avait lieu pas plus tard que mardi dernier, était émis l'idée par un professeur qu'on pourrait imposer aux délégués d'avoir une formation pour les premiers secours. Et donc j'ai demandé pourquoi on n'imposerait pas une formation simplement aux délégués écologiques, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on a des délégués écologiques mais qui ne servent à pas grand chose, qui ne viennent pas au club écologie et qui sont là seulement pour...
Il y a des délégués écologiques.
Et oui, il y a des délégués écologiques, mais c'est seulement de titre finalement. Et moi par exemple, qui suis délégué éco de ma classe et pas délégué tout court, mais je fais par mes propres moyens parfois des exposés à la classe pour leur expliquer et pour essayer de leur faire prendre conscience du dérèglement climatique et de la perte de la biodiversité, mais il n'y a aucun cadre à cela.
Ah, donc il n'y a pas d'encadrant, il n'y a pas de référent, il n'y a pas de feuille de route même qu'on aurait pu te donner.
Non.
Parce que bon, un encadrant, c'est peut-être pas forcément nécessaire parce que vous êtes grand, mais...
Non, c'est juste un titre.
C'est juste un titre. Donc
c'est,
bon,
c'est bien pour Parcoursup.
Bon, bah, c'est excellent, ça, tu as tout compris. Pouvoir louvoyer dans les algorithmes nébuleux de cette plateforme. Et du coup, on peut passer...
Plus globalement sur les luttes, après évidemment, donc il y a cette lutte là qui est interne à l'établissement, et puis à l'extérieur on a aujourd'hui fait deux blocus, donc on a réussi à reprendre l'activité militante du lycée qui s'était arrêtée donc avant le Covid. Et il faut savoir que historiquement c'était un lycée qui avait une activité militante très particulière, c'est-à-dire qu'elle était tout le temps en décalé par rapport aux mouvements nationaux. Donc à chaque fois on avait une bonne semaine, deux bonnes semaines de décalage avec les mouvements nationaux pour les blocus dans
et
le lycée.
Tu l'attribues ça à quoi?
Je ne sais pas, c'est peut-être que pendant les mouvements nationaux, étant donné qu'il y a beaucoup de policiers, les élèves tout de suite paniquent et il faut attendre le temps que ça se calme pour pouvoir prendre par surprise l'établissement.
Ah, c'est intéressant ça. Bah écoute, je propose qu'on fasse une petite pause pour te laisser le temps de souffler et puis on reprend sur les mobilisations plus récentes.
Avec plaisir.
La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder.
La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Libérez vos camarades, ouvrez la cage aux soixantenaires. Ils passent des pros, le nan, du jardinage et du bricolage. Les mots croisés, et puis du sport, et aussi du souci en colère. Ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite, à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. On veut tout vieillir, que les machines s'envoient en l'air dans les glissines. Le fort à table, nous mettre minable, on frappe. Et qu'elle repasse des diplômes, qu'elle nous fasse des tartes au beurre. Ou qu'elle plantouille le soleil, si elles ont un peu la flemme. On s'arrêtera pas là, on veut entendre les cris de joie. Dans les parcs, on était des hommes qu'à libérer. Les cheveux gris au vent, courant à bois vers le levant. Qu'ils puissent chanter et faire des rondes et réfléchir au nouveau monde. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, pardon, et vous écoutez Délibéré. C'était La Retraite par les Vulves Assassines, une petite ritournelle sympathique à diffuser peut-être lors de vos prochains blocus en janvier. Je m'adresse à Mathis qui donc nous a fait le plaisir de faire une longue interview avec Chirka. On va le retrouver tout de suite pour la deuxième partie de l'interview, qui va parler de sa propre expérience de blocus dans son établissement à Montrouge.
Eh bien, merci de rester avec nous encore un petit peu pour continuer cet entretien. Ça fait vraiment plaisir de recevoir un lycéen motivé comme toi.
Et, le plaisir est partagé.
Merci beaucoup. Alors, on va parler d'une lutte plus récente maintenant qui a mobilisé beaucoup de lycéens ces derniers mois, parce que mine de rien, ça fait quand même assez longtemps là, que vous êtes mobilisés, et qui est la réforme de l'enseignement professionnel d'abord, qui a suscité aussi un mouvement de contestation contre Parcoursup, puisque les deux aussi sont liés. Et ensuite, la plus récente annonce de fermeture de lycée professionnel à Paris, qui a, on va dire, fortifié la lutte contre la réforme des lycées professionnels. Donc est-ce que tu peux me dire déjà comment ça s'est passé, comment ça s'est déclenché dans ton établissement ?
Dans mon établissement, c'est tout simplement les classes de lycée pro qui se sont réunies, qui ont organisé un blocus quelque part. Et donc ce blocus-là... Alors il faut savoir que, étant donné qu'il y avait la police qui avait anticipé le fait qu'on allait en faire un, on a attendu que la police parte pour le commencer. Donc le blocus a commencé vers 10h. Et c'est terminé 2 heures plus tard, sous les lacrymos. La ville totalement lacrymogée, mais avec évidemment un peu de casse venant de la part d'élèves qui sont venus de lycée extérieur, donc à savoir l'utilisation d'extincteurs sur en l'air quoi quelque part, et aussi ils ont cassé la caméra d'une école dont ils ne savaient pas qu'elle était juive, donc évidemment on a eu un peu de presse
qui en a parlé tout de suite pour d'antisémitisme, etc., alors que c'était donc une action malheureuse.
C'est ça. Donc moi, il faut savoir que dans le lycée depuis maintenant à peu près 5 bons mois, je suis connu, j'ai à peu près un tiers des lycéens qui me suivent, et donc je suis un peu leur porte-parole quelque part, et j'essaye d'apporter de la cohérence et de l'organisation au mouvement qui à chaque fois dans le lycée se crée de manière spontanée. Et donc moi, mon taf, ça va être à chaque fois d'essayer de ramener un discours et de politiser la chose pour pouvoir ensuite, une fois qu'on est convoqué par le directeur pour parler de nos revendications, etc., porter un message au ministère, parce qu'il faut bien comprendre que, et ça c'est selon moi, mais je pense que ça vaut en général, l'utilité du blocus, c'est de pouvoir faire passer un message justement aux autorités et de leur faire savoir que dans le pays ça commence à chauffer. C'est un peu comme c'est un peu l'image finalement de la bouilloire où il y a l'eau qui bouillit et on a le couvercle au-dessus et ça commence à fumer. Et ils n'enlèvent pas le couvercle à temps, ça va péter, quoi.
C'est un bon résumé de ce qui pourrait se passer, même très bientôt d'ailleurs, à la rentrée, on espère tous. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Du coup, il y avait vraiment une stratégie pour essayer d'éviter la répression policière d'une part, et aussi les violences, parce que répression, c'est quand même vous qui êtes subissez le plus majoritairement les violences. Et finalement, ils sont quand même revenus à la charge.
Bien sûr. Là, c'était sur ordre du préfet. Donc, c'est-à-dire que la première fois qu'on avait fait un blocus, ils étaient restés là, mais en tant que spectateurs, on va dire. Ils ont attendu un petit peu le temps qu'ils se rendent compte qu'on ne laissait pas les élèves rentrer pour créer un filet de sécurité pour pouvoir laisser rentrer les élèves qui avaient cours. Et donc la deuxième fois, ils n'ont pas attendu, ils ont directement chargé. Ils ont coupé la rue en deux, parce qu'il faut savoir que l'entrée de notre lycée, elle est au milieu d'une rue. Donc ils nous ont pris en goulot d'encerclement quelque part.
Ah oui, d'accord, donc une pseudo-nasse.
Voilà, une pseudo-nasse, c'est tout à fait ça. Bon, heureusement qu'il y a une résidence qui est ouverte à côté et donc dans laquelle on a pu aller.
Ah d'accord, vous avez dû envahir une résidence privée pour échapper à la police.
Et ils ont lancé les lacrymos. Les lycéens se sont séparés en deux groupes. Il y a un groupe qui est parti vers un espace où il y avait plus des parkings, et l'autre groupe qui est parti dans cette résidence-là, dont je faisais partie d'ailleurs. Et donc nous, on était plus en amont et à côté du front, tandis que les autres étaient au loin dans la rue, mais le vent allait dans le même sens qu'eux.
Donc... Vraiment pas de chance.
C'est cela. Oh. Je pense que le meilleur moyen de résister aux policiers, puisque de toute façon, on ne pourra pas leur résister par la force, ça c'est sûr.
Enfin, malheureusement, ils sont mieux armés.
Donc j'ai essayé, étant donné que je pense quand même que la plupart des policiers doivent pas vouloir être policiers pour frapper sur du lycéen. D'ailleurs, ils ont très sûrement certains de leurs enfants qui sont dans un lycée et qui ont les mêmes opinions politiques que nous et qui sont dans la lutte et qui subissent ce même genre de violence. Et donc je pense que au-delà de la haine qu'on peut avoir envers eux et envers ce qu'on leur demande de faire, parce que finalement, c'est des militaires, enfin, c'est quelque part des militaires, c'est les souffluves de l'État, et ils font ce que l'État leur demande sans poser de questions, mais c'est le principe de leur fonction. Et donc, au lieu de leur envoyer de la haine, on a entonné une Marseillaise, On s'est dit, on va voir.
Vous avez tenté ça, vous avez tenté ça.
Et c'est passé. Et les policiers nous ont laissés tranquilles. Ils nous ont dit très gentiment de sortir de la résidence parce que c'était une résidence privée. Et on n'a pas été frappés, on n'a pas été gazés. Donc, comme quoi, l'amour à chaque fois est baleine.
Vous êtes malin, dis donc. Il faut donner ce genre de petits conseils aux camarades, effectivement. Ah, c'est fou. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais on voit que vous cogitez bien. Hein. Bah, en même temps, bon, y a une animosité qui,
forcément.
Voilà, qui existe, qui est là à chaque fois qu'il y a des contestations, notamment de la part de la jeunesse. Mais...
Et puis, il y en a certains qui connaissent certains policiers et qui subissent une certaine forme de harcèlement venant d'eux.
Ah oui,
évidemment,
c'est vrai.
Bien sûr, qui vivent dans les quartiers populaires. Et donc, il faut essayer de calmer cette animosité et essayer le plus possible d'être stratégique, on va dire, et d'avoir une action qui soit constructive et qui serve à quelque chose. Parce que on peut rester sur des principes et toujours quelque part refuser ce que les gens nous disent, refuser la différence, refuser les personnes qui ont des avis différents des nôtres. Et on peut, par exemple, c'est le cas pour les électeurs du RN, dire qu'ils sont tous racistes. Mais on peut avoir aussi une autre démarche, qui est une démarche plus constructive, de dire que finalement, c'est des êtres humains, et le propre de l'être humain, je pense, et ça c'est les Lumières qui nous l'apprend, c'est que nous sommes en devenir, nous sommes des êtres qui sommes en devenir, qui avons un potentiel, et on peut aller vers l'obscurantisme comme vers la lumière, quelque part. Donc là, c'est plus du côté scientifique, mais peu importe. Et donc ces gens-là, on peut les récupérer. On peut convaincre ces gens que... ils sont du mauvais côté quelque part, enfin, même si j'aime pas cette antagonicité. Et je pense qu'il vaut mieux mettre toute notre force là, justement, et tout sur le stratégique, parce que notre but c'est de gagner, c'est pas de défendre pour défendre, c'est d'améliorer réellement la vie des gens, d'améliorer... on produit tellement plus qu'avant, si on partageait ne serait-ce que très très peu les richesses, déjà n'importe qui pourrait vivre de manière totalement décente, on pourrait très facilement, dans la 6e puissance du monde, ne plus avoir de sans-abri, etc.
Ah, mais comme quoi, hein, quand on dit que les jeunes ne sont pas au courant de ce que ça représente, notre organisation politique, tu nous montres bien que non, vous êtes très conscient, et même avant l'université dont moi je fais partie, c'est vrai que c'est un bel exemple. Mais d'ailleurs, quand vous faites un blocus, c'est une décision évidemment forte, politiquement, hein, parce que ça vous engage. Mais après, c'est surtout pour revendiquer des changements stratégiques. Et à ce moment-là, c'est toi, du coup, qui va porter cette parole. C'est, j'imagine, un collectif aussi de camarades. Et vous allez la porter à votre directeur d'établissement. Ou qu'est-ce qui suit, en fait, vos blocus?
Mais alors, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que, enfin, il n'y a pas que moi, évidemment. Étant donné que les mouvements se font de manière totalement spontanée à chaque fois, et que, avec quelques camarades, on essaye de recoller les morceaux. Et d'ailleurs, sur le second blocus, on a eu l'aide de camarades du NPA, que je remercie ici. On est ensuite convoqué par... Enfin, on demande, en fait, à être convoqué par le directeur, tout simplement. Donc, on fait crier la foule devant le lycée, amener le directeur.
Et il vient ?
Non, il vient. Mais enfin, il vient pas, mais on nous apporte quelqu'un qui nous fait aller le voir.
Il vient par personne interposée.
Ah, c'est cela, exactement. Et donc, s'ensuit lui qui prend son petit cahier sur lequel il va faire remonter au recteur et à l'académie, et donc au ministère, nos revendications. Et ensuite, sur les plaintes les plus locales, on essaye de trouver des arrangements. Par exemple, sur le premier blocus, tout le monde avait peur parce qu'on était environ 300 à faire le blocus sur un lycée de 1000 élèves, donc ce qui est pas mal quand même.
C'est même un chiffre très impressionnant.
C'est un beau chiffre. Et donc, tout le monde avait peur d'être noté absent. Et étant donné que les absences comptent sur Parcoursup quand elles sont non notifiées. Voilà. Donc, le lycée a réussi à faire créer sur Pronote, qui est le logiciel sur lequel on a nos résultats, notre suivi, etc. Une nouvelle excuse d'absence, si je puis dire, qui s'appelle mobilisation lycéenne.
Vous avez créé ça sur Pronote, mais alors c'est valable pour tous les établissements de France ou c'est que votre...
C'est seulement le nôtre. Parce que chaque lutte est locale, encore une fois. Donc, mais
alors ça, c'est un sujet, ça. C'est un sujet, nous tenons un filon. Il faut absolument mettre cette condition d'absentéisme dans tous les établissements, hein, parce que quand même, c'est quand même aberrant. On comptabilise, en fait, des absences qui sont quand même justifiées, parce que se mobiliser, c'est une absence justifiée. Donc, dans votre parcours, après, ça reste inscrit sur votre bulletin et ça peut vous défavoriser pour Parcoursup. Et justement, ça m'offre une transition sur les luttes vraiment à proprement parler les luttes que vous avez menées là, c'était sur les lycées professionnels, la réforme des lycées professionnels et Parcoursup. Toi, qu'est-ce que tu en as retiré de tout ça? Qu'est-ce que tu as porté comme message justement à ton directeur d'établissement? Et est-ce que vous avez eu des retours?
Alors des retours, non, on n'en a pas eu parce qu'encore une fois, c'est des décisions qui se prennent au niveau national. Mais donc les revendications, c'est toujours les mêmes. On veut plus de professeurs. On ne veut pas que le temps d'apprentissage en lycée pro passe de, aujourd'hui, il me semble, 30% à 50%. Enfin, sinon, c'est plus un lycée public, c'est plus une entreprise.
Oui, c'est du salariat à bas prix.
À bas prix, à très bas prix, d'ailleurs, à très bon prix pour les entreprises qui doivent se régaler. Mais derrière, au niveau des entreprises, on rigole là, mais finalement, la plupart des entreprises, ça les embête d'avoir des stagiaires. Et elles n'ont pas d'ailleurs les moyens d'accueillir des stagiaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les 3 heures, donc là il y en a eu à peu près une dizaine dans la journée, il y a des accidents du travail de mineurs qui viennent de lycées pro.
Ah oui, c'est vraiment un chiffre impressionnant là quand même.
Un tous les 3 heures, tout à fait. Donc,
et c'est lié au fait qu'ils ne sont tout simplement pas assez bien formés pour les tâches qu'on leur demande d'effectuer.
Mais alors non seulement ils ne sont pas assez bien formés, mais en plus de ça, il n'y a pas les conditions pour les accueillir, ces élèves-là. Les entreprises ne préparent pas de cursus, d'endroit quelque part pour accueillir
les stagiaires. Il n'y a pas d'espace de travail dédié aux stagiaires.
Tout à fait. Et le fait est qu'aujourd'hui, les professeurs ont déjà énormément de mal à trouver des entreprises qui acceptent les stages.
Donc, c'est vrai que c'est toujours... Enfin, la recherche de stage, ça a toujours posé problème de tout temps, dans toutes les filières.
Ouais. Et donc là, il faut trouver des entreprises qui sont partenaires. Et le fait est qu'en passant le temps de passer en entreprise, donc d'apprentissage, de 30% à 50%, les problèmes sont toujours les mêmes et seront empirés. Et si les élèves ne trouvent pas de quoi être formés, et encore être formés, on parle plus de diplôme ici, on parle d'être formé à une tâche quelque part, d'être formé à des tâches qui sont propres aux entreprises. Donc finalement, on détruit...
Oui, je précise quand même, pour les auditeurs qui nous écoutent, mais il y avait aussi l'idée de régionaliser l'offre de formation. Et en fait, ça, cette idée-là, c'est de faire en sorte de prendre en compte les entreprises existantes dans le secteur et de dire qu'on va ouvrir des formations qui répondent à ce besoin. Et en fait, ça, le problème, c'est que c'est absolument injuste, parce qu'on peut très bien être à un endroit où toutes les entreprises autour de nous ne font pas ce qu'on aimerait faire. Et ça, c'est un droit de pouvoir étudier dans la filière qu'on souhaite.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant justement aussi, et qui va dans le même sens de ça, je disais tout à l'heure que, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit en micro ou bien si c'était en antenne, que la plupart des lycéens qui vont au lycée pro, ils y vont pas par choix, mais par dépit. Malheureusement, parce que c'est tous ceux qu'on a laissés au fond de la classe en 5e, en 4e, que les professeurs ont abandonnés et qui eux-mêmes ont abandonné les cours et qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, qui étaient totalement perdus, livrés à eux-mêmes, avec un contexte familial qui n'est pas forcément hyper sain. Et donc ces gens-là, ils se retrouvent en lycée pro. Et les professeurs, quelque part, qui avant pouvaient choisir les élèves qu'il y avait dans leur classe et donc faire des classes en fonction de la typologie des élèves et avoir des classes plutôt qui se débrouillaient, quoi. Et bien aujourd'hui, ils sont encore plus pénalisés parce que non seulement on a passé le temps d'enseignement professionnel, on l'a divisé par deux ce temps-là. Donc aujourd'hui, on a des élèves qui arrivent qui sont plus jeunes, qui sont moins matures et à qui on demande d'avoir les mêmes niveaux que les anciens élèves qui, eux, avaient deux fois plus de temps pour apprendre ces niveaux-là. Avec la durée d'études qui est passée de 4 ans à 3 ans.
C'est aberrant.
C'est aberrant, tout à fait. Et donc, ces élèves-là, on leur demande de faire des choix, etc., sans même qu'ils sachent et qu'ils aient fait la rencontre qui va faire qu'ils savent où va se tourner leur orientation.
Oui, en fait, c'est leur demander beaucoup trop tôt ce qui va décider de toute leur carrière professionnelle, en réalité.
Bien sûr. Et le fait est qu'aussi, en baissant les années d'études, en enseignement professionnel, on baisse aussi la capacité des élèves à aller dans le supérieur.
Vraiment, on crée une classe sociale qui est corvéable à merci, parce que l'université, quand même, ça émancipe énormément, ça permet de découvrir peut-être des matières sous un angle qu'on n'aurait jamais pu envisager au lycée, parce que les conditions d'enseignement sont très différentes. Et j'avoue que moi-même, j'ai énormément d'amis qui se sont découverts des passions pour l'histoire, pour la géographie ou pour d'autres matières qu'ils n'apprécient absolument pas au lycée. Donc en fait, ne pas laisser cette possibilité aussi aux personnes qui ont fait un lycée professionnels d'accéder à l'université, c'est très clairement vouloir créer une différence de classe sociale marquée, forte, pour bien entretenir une distinction entre l'élite et puis la main-d'œuvre, on va dire.
Ouais. Et puis ce qui est pas mal pour l'élite, c'est que c'est une main-d'œuvre qui voit pas. Et aujourd'hui, par exemple, justement, on parle d'élite. Qui sont les gens qui s'occupent de faire la réforme du lycée pro ? C'est pas des gens qui sont partis en lycée pro. C'est des gens qui...
Ça m'étonne, ça, vraiment. Pourtant, je pense qu'on demande toujours aux intéressés, hein, dans notre pays.
C'est bien, on est bien connus pour ça. Et la preuve, la Convention citoyenne pour le climat, ça a donné des belles...
Ah, ça a dû te blesser profondément, cette histoire-là.
Ah, oui, tout à fait. Et donc, on demande à des gens qui sont dans des ministères, qui ont fait des allers-retours entre le privé et le public, parce qu'il faut le savoir, ça aussi. C'est des gens qui sont pour la privatisation, parce qu'ils ont leurs amis, qui, tout simplement, ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Et d'une main-d'œuvre qui est peu qualifiée. Le problème avec quand on a une main-d'œuvre qui est peu qualifiée, c'est qu'elle n'est pas maniable. Enfin, elle n'est pas malléable sur le long terme, sur le marché du travail. Et donc, aujourd'hui, par exemple, dans une entreprise de voitures, enfin, dans les entreprises d'ailleurs, globalement, dans tout ce qui va être les machines, on va avoir un taux de renouvellement qui est à hauteur de 5 ans. C'est-à-dire que tous les 5 ans, les entreprises vont changer totalement le parc des machines. Et donc, les élèves, et enfin, du coup, les professionnels maintenant, vont devoir s'adapter tout simplement à ce changement de machine. Or, quand on arrête avec le diplôme et avec l'enseignement général et qu'on fait des espèces de mini-diplômes sur, non plus à la qualification, mais sur des tâches plus précises, mais on empêche ces élèves-là de pouvoir, dans le milieu du travail, être libres tout simplement et d'avoir une continuité dans les entreprises où ils sont. D'autant plus que ces diplômes-là, qui maintenant sont il est possible en fait pour les entreprises de créer ces diplômes là, c'est-à-dire que une entreprise peut créer un diplôme demain sur un certain nombre de tâches et au bout de 3 ans de remise de ce diplôme là, le diplôme rentre dans le droit commun et donc le diplôme est accepté et validé par l'État. Mais ces entreprises là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font un diplôme qui est payant. Et donc au final, on a une entreprise, on a des stagiaires qui bossent pour nous gratuits pendant 50% de l'année, enfin de leur année. On a derrière des gens qui vont payer des diplômes pour apprendre certaines tâches sur certaines machines et qui vont devoir après les repayer à chaque fois que les machines changent. Donc ça rapporte un quart de l'argent à l'entreprise. Et ensuite, toujours dans la même logique, on a des employés qui sont corvéables à merci, qui n'ont pas de ils ont des compétences, mais ils n'ont pas de qualification. Donc ils ont des compétences sur certains domaines, mais pas de qualification globale. Et donc, on va pouvoir, eux, leur dire... Si je te vire, il y a 300 personnes qui sont derrière la porte et qui n'attendent que tu partes, en fait, pour te remplacer. Et donc, pourquoi je t'augmenterai ton salaire ?
Ah, mais c'est étonnant, je n'avais même pas idée que ça touchait même au diplôme, la capacité des entreprises à créer des diplômes spécifiques à leurs propres tâches, c'est quand même quelque chose d'assez effrayant.
En fait, il faut savoir que donc, l'enseignement professionnel, à sa création, donc il me semble en 1989, il y avait un débat philosophique qui s'était créé, autour duquel on se demandait... Pardon, c'était à la fin de la guerre, en 1949, excusez-moi. Et donc, il y avait un débat philosophique qui était de savoir est-ce qu'on mettait ce diplôme professionnel et l'enseignement professionnel du côté du ministère du Travail ou du ministère de l'Éducation. Et on a tranché pour le ministère de l'Éducation pour la bonne et simple raison qu'on a pensé que, la voie professionnelle, c'était une voie où on prenait les élèves, on innovait, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est une des voies où on innove le plus, parce qu'on a des élèves qui ont du mal avec les méthodes classiques. Et donc, on va créer de nouvelles méthodes. Les professeurs innovent vachement pour intéresser les élèves. Et d'ailleurs, ça marche. Et aujourd'hui, il y a des projets d'art, c'est pas des projets d'art, mais des projets culturels, voilà, dans lesquels, par exemple, si on est dans la soudure, on va avoir un projet culturel qui va être de faire une sculpture en fer. Et donc, dans ces projets culturels, on va relier toutes les matières, la physique, pour faire tenir la sculpture, pour pas qu'elle s'effondre sur elle-même, la chimie pour peindre la sculpture, l'art plus globalement, la culture, etc. Et ces projets culturels, il faut savoir que là où on a un taux d'absentéisme d'environ 80% d'absentéisme en lycée pro, globalement, on passe à des élèves donc qui étaient à 80%, enfin pour les cas, on passe des élèves qui étaient à 80% du temps pas là à des élèves qui sont à 90% du temps là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la qualification...
C'est formidable.
C'est ça. Donc c'est quasiment magique. n'y a pas besoin de se creuser la tête plus que ça. Donc, au final, quand
on
fait...
Les choses qui marchent, il faut les utiliser. Hein.
Bah oui, bah c'est tout mon combat, justement, c'est de faire valoir ce qui marche et non pas ce qui ne marche pas, et ce que les capitaleux essayent de faire passer. Et ce qui marche, c'est justement la qualification et non pas ce qu'on a dit tout à l'heure, la compétence. Et donc... On a fait passer cet enseignement-là, pour revenir à l'historicité de la chose, à l'enseignement par la voie de l'éducation nationale, en se disant qu'on allait former des citoyens. Au-delà de former des travailleurs hautement qualifiés, parce qu'il faut savoir que c'est pas n'importe quoi, n'importe qui ne peut pas faire forcément d'enseignement pro. C'est des gens qui vont travailler dans la manutention, dans ce qui va être les coques pour bateaux. Les coques pour bateaux, et d'ailleurs les coques pour bateaux, c'est la même chose que les coques pour les fusées qui vont dans l'espace. Les choses sont réglées au micron. Donc c'est des métiers qui demandent énormément de précision et qui sont issus de l'enseignement pro, justement. Et... on a choisi la qualification pour la bonne et simple raison que il nous fallait des travailleurs, puisque c'était dans un moment où il fallait reconstruire la France quelque part, et il y avait les premières centrales nucléaires qui étaient formées, et donc on avait besoin de main d'œuvre et de gens qui étaient qualifiés pour savoir le faire. Et donc on a préféré former à la fois des citoyens, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent, qui ont un esprit critique, qui ont un regard sur le monde et qui vont participer à faire des choix de société. Et normalement, tous les citoyens devaient être militants quelque part, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit bien que la citoyenneté, les gens qui gouvernent, c'est pas ce qu'ils veulent. Et donc des citoyens et des travailleurs qui étaient hautement qualifiés, et aussi bien culturellement calés que techniquement.
Écoute, c'est passionnant comme débat, et puis surtout c'est cet exposé que tu nous fais de la situation des lycées pro qui est très clair et sincère. C'est ce qu'on sent, que tu portes quand même la chose. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Je pense que malheureusement on va devoir s'arrêter là, mais merci pour l'état des luttes, on va dire, dans ton établissement. Voilà, si tu as un dernier mot quand même à ajouter.
Si je peux rajouter un petit dernier mot, dans les temps qui courent, il faut savoir aussi, juste un petit chiffre pour l'enseignement pro, rapide, on a moins 1200 professeurs en enseignement professionnel, et il n'y en a pas énormément des professeurs, donc, et plus 20 000 élèves en 3 ans. Donc, ça va être une catastrophe.
Un écart énorme entre les moyens qui sont mis à disposition et la demande de formation.
Et c'est totalement illogique, parce que dans les temps qui courent, on va avoir besoin justement de passer à une bifurcation. Maintenant, on peut parler de bifurcation, je pense, et tout le monde peut parler de bifurcation et non plus de transition, parce qu'on n'a plus le temps pour faire une transition. La transition, si on devait la commencer, ça aurait été en 1990 qu'il aurait fallu la commencer. Pas en 2020, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus que 3 ans, de toute façon, pour respecter les accords du GIEC avant qu'on ait une planète qui parte sur 2,5 degrés de réchauffement climatique. Et 2,5 degrés de réchauffement climatique, ça crée une espèce de boucle de rétroaction, donc c'est-à-dire une boucle sans fin qui fait s'augmenter de manière mécanique la température de la Terre. Donc on n'a plus de main là-dessus. Et donc dans les temps qui courent, où il va falloir justement passer à cette bifurcation écologique, donc investir dans l'industrie lourde, relocaliser dans le pays tout ce qui va être production d'éoliennes, de moulins, parce qu'il faut savoir qu'avant la France était le pays où il y avait le plus de moulins, parce qu'on est un des pays où on a le plus de fleuves, et donc on peut produire de l'électricité à partir de l'eau. Pareil pour les machines qui reproduisent le mouvement des vagues pour produire de l'énergie à l'intérieur de la mer. Enfin, on a un champ de domaine qui est extrêmement grand, qui peut être basé sur le mimétisme sur la nature, enfin, c'est-à-dire qu'on reproduit les mouvements qui sont créés par la nature pour produire de l'électricité, pour produire de l'énergie, pour pouvoir relocaliser les choses, qu'en société, on soit plus résilient et qu'on résiste au changement climatique. Et on a besoin justement des personnes et de ces élèves-là qui sont en enseignement professionnel et qui vont être au centre du sujet et qui vont nous permettre de faire cette bifurcation, parce que sans la tête, quelque part, enfin, pour faire fonctionner une société, on a besoin de mains. Et ces mains, sans la tête, elles valent rien. Et justement, ces mains et cette tête, c'est les élèves qui sont en enseignement professionnel. Eh bien, si on continue à la casse comme ça, on ne pourra jamais s'adapter au changement climatique. On devra malheureusement faire face à un effondrement incertain de la société, de l'État, et nous débrouiller chacun de notre côté. Je pense que ça, peu de gens ont envie de le faire.
On retombe sur l'écologie, hein,
toujours. Pas
toujours. Je pense que ça promet pour ton avenir militant.
Ouais, j'espère bien.
Donc, on te souhaite bon courage. On te souhaite bon courage. Merci à tous tes camarades. Et puis, on te remercie beaucoup d'être passé sur Radio Libertaire. On va s'arrêter là, mais vraiment, on te soutient et courage à vous.
Ça aurait été un plaisir de continuer, mais merci. J'apprécie beaucoup l'invitation. Bonne journée.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille, un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit. Non, on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça gratos, hein, Uberball. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enquêtes.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et vous venez d'écouter Démission pour Claire des Villas. C'était un petit message adressé aux étudiants qu'on voudrait soumettre un peu trop rapidement au patronat, puisque c'est ce dont on a pas mal discuté jusqu'ici. Pour les personnes qui viennent de se réveiller ou qui viennent de nous rejoindre pour une autre raison, vous êtes sur Délibéré, et nous parlons des mobilisations lycéennes et de toutes les problématiques récentes de réforme de lycée général professionnel. Donc on vient d'écouter le témoignage de Matisse, lycéen âme rouge, et très très engagé.
On remercie encore chaleureusement quand même d'avoir accepté de réaliser cet entretien un peu en amont de l'émission, puisqu'il a cours ce samedi matin, donc on n'allait pas le pervertir et le forcer à rater ses cours pour nous. Mais voilà, du coup, on le remercie et on lui souhaite vraiment bon courage pour la suite des luttes.
Merci Mathis. Du coup, on va prendre un petit temps pour quand même réagir un petit peu à son témoignage.
Oui, 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 bah, je t'en prie. Si tu as des réflexions à faire là à chaud.
Alors moi, énormément, parce que c'était quand même très, très dense et très long. Mais voilà pour...
Est-ce que tu voudrais peut-être faire un point sur Parcoursup éventuellement? Oui. Je ne sais pas quel est, enfin, par quel bout tu veux commencer à aborder. C'est vrai que c'était très touffu. Ouais, on a beaucoup parlé de la réforme de l'enseignement professionnel et c'est une très bonne chose parce qu'à mon avis, c'était quand même le gros de la mobilisation récente des derniers mois, octobre-novembre. Et du coup, je pense qu'on a vraiment passé du temps là-dessus pour marquer quand même cette lutte. Après, il faut savoir que les lycéens sont quand même toujours et encore mobilisés contre Parcoursup, alors que ça a été mis en place quand même en 2018, donc ça fait 5 ans maintenant. C'est fou.
Oui.
Alors, il y a eu des changements entre 2018 et maintenant. Au départ, il n'y avait pas de hiérarchie de vœux. Maintenant, il y a une hiérarchie pour la seconde phase qui ne veut pas s'appeler trop hiérarchie des vœux, mais quand même. Donc, ça a évolué. Le fait est qu'il y a énormément de lycéens qui se retrouvent sans affectation à l'issue de la première phase, qui est quand même très tardive. Hein. La première phase, c'est en fin juillet, qu'elle rend son verdict. Donc, pour se préparer à entrer dans le supérieur, c'est quand même très inquiétant de devoir attendre fin août. Et je pense que ça, c'est vraiment une lutte qui continue dans les lycées et dont on peut peut-être parler.
Et c'est vrai que vous avez, du coup, pendant l'entretien, parlé spécifiquement des lycées professionnels. Mais le lycée général est aussi soumis à des grandes réformes, on va dire, qui changent assez en profondeur la philosophie de l'enseignement en France. Les réformes dans le lycée général, c'est d'un côté Parcoursup qui a été mis en place il y a 5 ans. Et donc, comme tu le décrivais, qui est le début de la sélection à l'entrée à l'université, et un ensemble de critères de sélection qui changent.
En fait, avant, il suffisait d'avoir le baccalauréat, oui. Et ça nous ouvrait la porte des universités. Évidemment, ça n'ouvrait pas la porte des enseignements en classe préparatoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pour ce qui était de l'enseignement en université, normalement, chaque étudiant bachelier devait avoir sa place dans une université.
Voilà, et tranquillement, on est passé à un mode de sélection de partout avec Parcoursup. Mais en plus, la réforme s'est aussi attaquée au programme du lycée, c'est arrivé un petit peu après Parcoursup. Et on a en fait la même question qui revient parce que... c'est que en fait on va sélectionner les élèves qui ont le capital social et culturel, qui ont les parents, qui ont les professeurs qui sont derrière eux pour leur faire comprendre comment avoir la stratégie pour arriver à ce qu'ils veulent en fait comme études. La réforme du bac, ça a consisté à supprimer les filières, donc les filières S, ES, L du lycée général classique.
Les nôtres, elles sont parties. Ça y est, nous sommes déjà relégués au rang des ancêtres.
Ouais, les ancêtres qui parlent de leur temps.
De mon temps, le bac, c'était comme ça.
Et voilà, donc maintenant, c'est quelque chose à la carte où quand on arrive en première, on peut choisir trois matières principales, en gros. Et ensuite, on arrive en terminale, on n'en choisit plus que deux. Et donc, en fait, ça donne lieu à des élèves qui ne savent pas comment stratégiquement choisir. Et typiquement, je m'y connais un peu plus dans les trucs scientifiques, donc je sais que dans l'enseignement scientifique, par exemple, prendre l'option physique sans prendre maths, c'est assez problématique.
C'est incohérent.
et malheureusement, c'est normal qu'il y ait des élèves qui disent « moi j'aime la physique, j'aime aussi, l'histoire, et donc j'ai envie d'arriver en terminale et de prendre l'histoire et de la physique, pourquoi je prendrais les maths ?» Et donc voilà, on en arrive à une espèce de réforme à la carte, de bac à la carte, qui en fait pose pas mal de problèmes au niveau ensuite de qu'est-ce que ça nous ouvre comme porte pour l'enseignement supérieur.
Et le souci, c'est qu'à contrario, il va y avoir des étudiants qui, enfin des étudiants, des lycéens qui auront une famille justement plus au fait de comment se construisent les filières, quels sont les parcours d'excellence, etc., qui vont arriver à dire à leurs enfants, bah oui, en réalité, il faut que tu prennes maths et physique, oui, parce que c'est ça qui va t'ouvrir les portes de telle prépa. Et du coup, ça va être un marqueur social, rien que ça.
Ouais, exactement, et c'est vraiment, et puis voilà, on peut pas, enfin. C'est un truc sur lequel, contre lequel je pense qu'il faut lutter, le fait que les parents vont, qui ont les outils vont les donner à leurs enfants pour, voilà, pour avoir les stratégies scolaires qu'il faut, les stratégies étudiantes. Et si en fait, on ne peut pas espérer qu'eux-mêmes disent non, par souci de justice, je vais les laisser faire, mon enfant faire 100% des choix, même si je considère qu'ils vont lui faire rentrer dans le mur. Et voilà, donc il y a même des lycées qui, du coup, recréent un peu artificiellement les filières précédentes, on va dire, en disant, voilà, si tu veux prendre cette matière, prends celle-là avec, parce qu'elles vont ensemble, etc. Donc voilà, ça, c'est... Et en fait, je voulais dire sur toutes ces réformes que je pense que c'est très important d'en parler le plus possible, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément deviner à l'avance quels problèmes elles vont créer, quelles conséquences elles vont avoir, en fait. Parce que, par exemple, si vous... Enfin, je ne sais pas, moi, si on me dit là tout de suite, bah, tu préfères que... Voilà, d'avoir... Parce que finalement, les filières, elles avaient aussi leurs problèmes, qui étaient que... Bah, il y avait quand même S qui était la filière scientifique, qui était la filière reine. La filière littéraire était souvent, dans beaucoup de lycées, un peu plus méprisée et prise par les gens qui... Voilà, donc, qui n'avait pas forcément le niveau en maths, etc. Donc il y avait des choses qu'on avait envie de changer. Et donc voilà, je pense que les questions de... sur toutes ces réformes sont pas évidentes. Et je pense que c'est important d'en discuter pour se dire, bah voilà, en fait, même si on se disait, ah, ça pourrait être pas mal de laisser le choix aux gens, en fait, il y a ça comme conséquence. On le voit, c'était une catastrophe. Il n'y a plus aucune fille qui faisait, enfin, il y a beaucoup moins de filles qui faisaient des maths, alors que ça faisait des décennies qu'on essayait de faire accéder le plus de femmes à des filières scientifiques, à des métiers scientifiques.
Bah oui, parce qu'en plus de reproduire du coup des distinctions sociales, il y a aussi des distinctions genrées qui s'établissent, puisqu'une fille, bon, bah, elle sera quand même plus forte en littérature, en histoire de l'art, alors qu'un garçon pourra plus facilement comprendre les maths et la physique quand même, qui sont des choses sérieuses. Donc oui, c'est vraiment, sur tous les plans, ce type de réforme, c'est quand même assez...
C'est assez catastrophique, et en plus, il y a ce truc qui arrive quand les réformes se font. Je crois qu'il en parlait un peu pour les trucs du... Ou c'est toi qui en parlais pour Parcoursup, c'est qu'en fait, ils se rendent compte que c'est une catastrophe, certaines choses, et en fait, c'est très difficile de reculer, parce que c'est aussi de se désavouer et dire que voilà, notre politique n'était pas la bonne. Et donc typiquement, là, les maths sont redevenues obligatoires, mais il est hors de question de dire officiellement, voilà, on s'est planté. On s'est planté, on va annuler tout ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est...
Alors que pourtant, il n'y aurait pas finalement de problème à assumer qu'on a été dans la mauvaise direction pendant...
C'est juste un peu triste pour les générations sacrifiées, mais oui.
Alors ça peut être triste, mais au moins on aurait le mérite d'aller de l'avant, alors que ce n'est pas vraiment le cas.
Et pareil, un truc qui a été discuté par Mathis et qui vaut aussi pour les lycées généraux, c'est la question de toutes ces décisions, toutes ces inventions de nouveaux programmes, de réformes, par qui sont prises les décisions. Et il disait que les entreprises avaient une énorme part, une énorme puissance là-dedans. Et c'est vraiment quelque chose qui est énormément décrié pour les réformes des lycées professionnels.
Et ça, c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est peut-être la chose la plus, on va dire, rétrograde qui est instaurée dans cette réforme.
Quand il en parlait, ça m'évoquait vraiment des cours d'histoire sur les mouvements ouvriers.
C'est ça, c'est historique.
Voilà. Et oui, je pense qu'en fait, c'est incroyable comment c'est jamais les personnes un minimum concernés qui vont avoir la voix au chapitre. Pour la réforme du bac, ça a été des comités experts, et dans ces comités experts, on avait très peu finalement de je sais pas, de profs ou même de
l'expertise d'un professeur.
Des sciences cognitives.
Pourquoi
des sciences cognitives qui vont nous dire comment fonctionne notre cerveau et donc comment on va faire. Enfin, j'exagère peut-être, mais il y a des comités qui sont très experts, qui sont très peu démocratiques. Et voilà, c'est effrayant. Donc il y a ces comités, il y a les entreprises. Et à la fin, on ne sait pas comment a été prise la décision, pourquoi on arrive à des trucs absurdes comme ça. Et après, les gens se battent, les gens utilisent. Donc, c'est un truc dont je voulais parler, tous ces moyens de mobilisation pour se prendre ensuite la violence policière quand on n'est même pas majeur.
Mais oui, ça, je pense que c'est quand même important de souligner que pendant les mouvements de contestation qu'il y a eu en octobre-novembre, il y a eu quand même des violences inédites sur des lycéens, qui sont donc des mineurs. Pour recontextualiser un petit peu, la première vague de contestation lycéenne, là, assez particulière de cette rentrée, ça a commencé avec à Nanterre, avec la suspension du professeur Kai Terada de Sud Éducation, qui a été suspendu. Alors moi, j'ai renommé la cause de cette suspension ainsi pour syndicalisme assidu. et en fait, tout simplement, c'était sans raison, mais on avait bien deviné que c'était à cause de ses activités syndicales poussées qu'il avait donc été suspendu, puis muté. Et suite à ça, ses élèves se sont mobilisés à Nanterre pour demander à ce qu'il revienne enseigner. Et on a eu 14 lycéens arrêtés et placés en garde à vue pendant une nuit, et un envoyé à l'hôpital. Parce qu'un tiers s'est perdu ou je ne sais quoi. Et en fait, ce type de violence-là, c'est tout simplement un retour inédit de violence sur mineurs qu'on n'avait pas vu depuis des décennies.
Ouais.
oui, je sais. Tu en restes bouche bée.
Non, mais c'est que aussi, je me faisais cette réflexion pendant que j'écoutais l'interview, que en fait, c'est des choses, j'ai l'impression que vraiment. Les gens font. Je sais pas, les gens font pas l'effort aussi de se renseigner sur ça, je sais pas, mais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça.
Le traitement médiatique aussi qui est fait de ces violences est très clairement discutable. Parce que ça, on en revient toujours au problème de finalement quels sont les sujets qui sont mis en avant aux heures de grande écoute à la radio ou à la télévision. Bon, je pense pas que la répression des lycéens de Nanterre. Bon. Je crois que celle-là, ça n'a pas fait les gros titres.
Ouais, c'est pas ce qu'on apprend en enseignement moral et civique.
Non, malheureusement, pas encore.
L'aspect moral et civique, c'était vraiment plutôt une manière de.
C'est un enseignement qui reste. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir créé une matière qui permette, en fait, de s'emparer de la question de la citoyenneté. Mais comme il n'y a pas vraiment de contenu clair et précis, ou alors de moyens alloués en fait aux professeurs pour se former à cette matière, finalement on se retrouve avec deux heures par-ci par-là qui parfois servent à des professeurs pour rattraper des cours, parfois c'est vraiment très très fluctuant, et on peut avoir un enseignement de très bonne qualité ou pas en fonction de
Je crois aussi que avec le renommage de éducation civique à enseignement moral et civique, ça s'est aussi accompagné d'un changement quand même un peu d'idée. C'était plus juste informer sur les institutions, etc., mais c'était aussi on va apporter aux élèves un peu nos valeurs
Et ça, faut
l'État
se méfier
français, qui sont finalement assez.
Oui, entre endoctrinement et puis enseignement,
c'est
peut y avoir une frontière un peu poreuse.
Mais l'heure tourne. Et donc, on va faire une dernière pause musicale. Enfin, une dernière pause musicale avant notre musique de fin, bien sûr. Un poème qui reflète bien notre état d'esprit. Désenchanté, mais pas désespéré. Le retour du printemps de Seydé.
Comme une fleur, je compte pas faner là. Je connais les allées de ma ville, la vie, ses aléas. Nier, j'ai passé l'âge, les années se cassent, hélas. Si demain je pars, qui rigolera, qui versera des larmes. Cette fois l'écart est large, de perdre la foi, j'ai l'art. Je n'ai que faire de ma fierté, ces cadeaux, gardez-la. Ça chira pas d'Elias, je sais, y'a de la tristesse dans la richesse et de la joie dans les favelas. Gardez vos compliments, là y'a la terre qui meurt, partout ça jette des bombes. Mais bon, je souhaite un bon dimanche, des infos et des ondes. Puis tous les zombies dansent, immondes, petite merde au cœur d'un. un monde immense. Ça court dans tous les sens, ouais pareil que l'heure tourne. C'est sorti droit du fond de ma tête, je l'ai fait seul tout. Reprends ta vie en main si tu la vois passer. Les bras ballants, la voix cassée. Et dans les gens changent, moi je fais pas semblant. J'ai toujours la rage dans le ventre, je connais la sentence. Et qu'importe ce que t'en penses, je lance une prière dans le vent. Et dans les gens changent, moi je fais pas semblant. J'ai toujours la rage dans le ventre, pas grand chose d'éclatant. Je reste allé, j'attends le soleil, les oiseaux et le retour du printemps. Je suis resté cloisonné à regarder le temps pourri. 30 bougies sur un gâteau empoisonné. Et t'es loin d'être du père, toi qui dis que c'est la merde. Va faire un tour ailleurs puis redescends sur terre. On a pillé l'or du tiers-monde en criant victoire. Ma mène, j'ai plus envie de boire, ma belle, j'ai plus envie de croire. Remplissez le frigidaire, t'essayes, ni pute, ni puriste, ni suspite, ni suicidaire. La lune est belle, ma plume saine, la rime ruisselle. Chante les Caraïbes et les ruelles de Bruxelles. La musique a niqué ma vie, mais je suis fou d'elle. On sort pas un album comme on sort les poubelles. Y'a des mots qui prennent les tripes comme une guitare gitane. Le parfum d'une femme qui passe, y'a des images qui parlent. Qu'importe ce que disent les gens, ici le ciel est peintre et nous offre chaque soir un tableau différent. Les temps, les gens changent, moi je fais pas semblant. J'ai toujours la rage dans le ventre, je connais la sentence. Et qu'importe ce que t'en penses, je lance une prière dans le vent. Les temps, les gens changent, moi je fais pas semblant. J'ai toujours la rage dans le ventre, pas grand chose d'éclatant. Je reste allé, j'attends le soleil, les oiseaux et le retour du printemps. Les temps, les gens changent, moi je fais pas semblant. J'ai toujours la rage dans le ventre, je connais la sentence. Et qu'importe ce que t'en penses, je lance une prière dans le vent. Les temps, les gens changent, moi je fais pas semblant. J'ai toujours la rage dans le ventre, pas grand chose d'éclatant. Je reste allé, j'attends le soleil, les oiseaux et le retour du printemps. Yes.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et vous écoutez Délibéré. Vous venez d'écouter d'ailleurs une petite musique qui reflète bien notre état d'esprit actuel, le retour du printemps de Seïté. Et c'est vrai que là, avec toutes ces mobilisations qui nous ont tenus en haleine ces derniers mois, on avait bien besoin quand même d'une chanson qui nous redonne un peu d'espoir, même si on reste lucide sur l'état des luttes. Du coup, maintenant, je pense qu'après avoir parlé de Parcoursup, beaucoup, notamment grâce au témoignage de Mathis, qu'on remercie encore et qui nous a fait du coup un exposé quand même très clair et très fourni de la situation des luttes dans son lycée de banlieue parisienne. Maintenant, je pense qu'on pourrait lier ça avec une problématique qui nous préoccupe beaucoup en tant qu'étudiante, Alix et moi, qui est donc la réforme Trouver mon master. Alors, Trouver mon master, ça aurait pu s'appeler Master Sup, je pense, parce que c'est vraiment l'idée de faire la même chose que Parcoursup au niveau de l'entrée en master. Et c'est ça qui est drôle, c'est parce que avec Alix, on se disait, bah, c'est dingue, en fait, avec Parcoursup, ils ont créé des choses, ils ont fait une réforme, ils ont essayé de revenir en arrière parce qu'ils ont vu que ça marchait pas sans dire qu'ils revenaient en arrière. Mais en fait, pas du tout, ils reviennent pas du tout en arrière puisqu'ils veulent l'appliquer au master aussi. Donc ils sont très déterminés à ce que cette sélection à l'entrée du supérieur soit vraiment voilà, effective partout, pour tous, tout le temps. Et donc peut-être je vais commencer par rappeler ce que c'est que cette réforme aussi. Elle était prévenue l'an dernier. Elle était prévue pour l'an dernier, donc elle devait être mise en application l'an dernier. Et bon, il y a eu quelques contestations et peut-être une élection présidentielle qui ont calmé le débat sur l'application de la réforme. Mais cette année, ça y est, c'est officiel, on va avoir Trouver mon master. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme à la base, qui existait déjà d'ailleurs, qui recensait toutes les formations de master de France. Bon, jusque-là, on peut se dire pas de problème. Le problème, c'est que ça a changé d'objectif. Maintenant, il n'est plus question de recenser des informations, mais de faire passer tous les étudiants et étudiantes par un processus de sélection unifié qui serait sur cette plateforme et qui mettrait en compétition, par exemple, les universités publiques et toutes les écoles privées, toutes les formations privées. Donc déjà, ça c'est quand même un peu inédit. Il y aurait 15 vœux sans hiérarchie. Donc là, on se retrouve avec les mêmes problèmes que pour Parcoursup, c'est-à-dire que sans hiérarchiser les vœux, ça veut dire qu'à l'issue de la première phase, il y a des étudiants qui sont pris partout, qui du coup bloquent des places à des étudiants qui se retrouvent 300e en liste d'attente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ralentit énormément la procédure et qui stresse beaucoup les étudiants, puisqu'ils ont une réponse tardive, et la réponse étant tardive, et bah forcément, pour chercher un logement, pour chercher une colocation, pour tout simplement même être certain d'aller vers la filière qu'on désire, c'est plus du tout assuré. Ensuite, on a une phase d'admission qui est encore un peu floue. On ne sait pas si ce sera vraiment en deux phases, en une phase. Il y a des débats encore, des discussions encore pour ça entre les professeurs et puis le rectorat. Alors, on se dit quand même qu'appliquer une réforme, quand il y a encore des discussions sur la réalisation concrète de la réforme, c'est un petit peu étonnant. Et en plus de ça, on a quand même encore d'autres nouveautés qui s'ajoutent et qui nous font quand même un petit peu peur, qui est l'obligation aussi d'une certification à obtenir entre les deux années de master. Parce que bon, il faut rentrer en master, il y a déjà une sélection, un dossier, voilà. Mais en plus de ça, il faudrait que au terme de la première année, on fasse une sorte de pointage des étudiants pour déterminer si, en fonction de leurs notes, de leur assiduité en cours ou je ne sais quoi, d'ailleurs il n'y a pas de critères vraiment définis, ils peuvent être certifiés pour passer en deuxième année. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est évoqué, c'est une rumeur, on ne sait pas vraiment si ce sera appliqué. Et un dernier point qui est extrêmement important, la date de dépôt des dossiers, qui est avancée à mars au lieu de début juin ou mi-juin, qui fait perdre absolument tout son sens déjà au deuxième semestre de L3, puisque si on dépose nos dossiers en mars, pourquoi est-ce qu'on resterait jusqu'en juin pour préparer son dossier? Ça paraît quand même un petit peu contradictoire comme mesure. Et en plus de ça, c'est aussi raccourcir le temps de L3, comme si finalement ce diplôme qui est déjà peu valorisé, qu'on considère pas suffisant pour avoir un travail après qualifié de qualité. Déjà, ce diplôme qui était peu valorisé, on lui ampute une partie d'un semestre, parce que c'est peut-être un petit peu, c'est un peu superflu finalement. Ce qui compte, c'est de faire un master, mais la licence, ça mène à rien de toute façon. Moi je trouve que toutes ces mesures qui ont été mises en place, qui vont être mises en place en mars, ça rejoint les luttes des étudiants ou des lycéens contre Parcoursup. Et je pense qu'avec Mathis, on pourra peut-être se retrouver dans certaines manifestations en criant des slogans à peu près similaires.
C'est vrai que ça ressemble énormément.
Moi je pense que c'est vraiment important de rappeler quand même que l'éducation, le droit à l'éducation, c'est quelque chose de tout aussi important que le droit à nos retraites, que le droit à notre chômage. En fait, ça fait partie vraiment de ce qu'il y a de plus précieux dans le service public, c'est-à-dire comment on va former les gens, est-ce qu'on va les enfermer dans un déterminisme social qui va les pousser à reproduire ce que leur patrimoine social leur permet de faire ou pas, est-ce qu'on va arriver à les émanciper ou pas. Très clairement, on ne se dirige pas vers l'émancipation. Après, il y a aussi la question, moi, que je trouve intéressante, qui est aussi de casser vraiment la souveraineté des universités, qui jusque-là, oui, avec des dépôts de dossiers différenciés, même si effectivement on pouvait critiquer aussi la charge de travail supplémentaire que ça demandait de déposer tous les dossiers, chaque dossier dans chaque université, il y avait quand même cette idée que l'université pouvait sélectionner ses étudiants en fonction de leur profil, ce qui leur permettait de mieux les orienter. parce qu'on est là face à, ce, à cette question. Comment on oriente les étudiants pour pas qu'ils se trompent? Et parfois, une formation de philosophie à la Sorbonne ou une formation de philosophie à Paris 8, c'est peut-être pas les mêmes contextes d'enseignement, c'est peut-être pas les mêmes profils d'étudiants. Et ça, faut en prendre en compte, faut le prendre en compte. Et les algorithmes ne se prennent pas en compte.
Et puis quand tu disais qu'on voilà, on a ce droit à une formation qui est précieux, c'est même pas juste une formation, parce que les années d'études, c'est pour beaucoup des années justement où de prise de conscience et de discussion et d'éveil politique. C'est aussi une manière de se faire des amis beaucoup. Enfin, je pense que dans voilà le milieu professionnel, il est tel qu'il est. Et quand on y arrive jeune, ça peut être vraiment difficile de, je sais pas, de se former aussi une vie sociale, d'avoir des gens à qui parler, etc. Et en fait, la fac, c'est aussi précieux pour ça, je pense. C'est d'avoir un lieu et où avant, on pouvait aller sans sélection. Et même si à la fin, peut-être, on ne va pas faire le métier pour lequel on avait fait cette licence ou ce master, c'est quand même voilà, c'est l'occasion pour la licence de rencontrer des gens, de découvrir des matières, pour le master de faire quand même... voilà, une première expérience dans des études un peu plus poussées dans quelque part. Et fermer cet accès à ça, c'est vraiment, vraiment dommage, je pense, pour les gens qui n'auront plus droit.
Bah, d'autant plus qu'il y a quand même les raisons qui sont invoquées pour de telles réformes, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs d'orientation d'étudiants, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui redoublent. Mais en fait, c'est quelque chose de peut-être aussi... inévitable. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va tenter quelque chose en croyant bien faire, mais les méthodes d'enseignement entre lycée et université sont si différentes que il y a de fortes chances qu'on ne trouve peut-être pas le même plaisir à étudier une matière qu'on aimait étudier au lycée. Et est-ce que nos dirigeants oublient de préciser lorsqu'ils prônent une réforme justement structurelle à cause de ces redoublements en première année, c'est que la plupart des étudiants, après leur redoublement ou leur réorientation en L1, continuent leur diplôme et obtiennent leur licence. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il y a 80% de réussite après la première année de redoublement ou la réorientation. Donc c'est vraiment... un chiffre très élevé, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être une erreur d'aiguillage au départ, mais qui est en fait ce qui devrait être prise en compte et amortie en raison tout simplement de la solidarité nationale qui aide les étudiants à trouver le métier qui leur correspond.
Ouais, bah c'est de toute façon juste une histoire de priorité et et d'argent, quoi. Je pense que là, en l'occurrence, c'est juste
mais
on veut juste plus mettre d'argent
mettre dans de l'argent dans l'éducation.
Et dans l'éducation non plus. Voilà.
Mais
c'est un peu triste.
Non, mais il ne faut pas finir sur une note aussi négative, voyons. Il faut rester positif. Non, non, non. Je pense que là, ce qui est en train de se passer dans les lycées professionnels ou autres, parce que tout le monde se mobilise, et c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est qu'il y a vraiment une solidarité claire et nette, et c'est très, enfin, voilà, c'est très porteur d'espoir. Moi, ouais. Je pense qu'il faut... faudrait, en tout cas, nous, en tant qu'étudiants, qu'on aille peut-être tendre la main aux lycéens qui ont le courage de se mobiliser, alors même qu'ils ne sont pas forcément les plus au fait de l'organisation militante. Ils font ça peut-être avec un petit peu plus de candeur et
après, d'approximation. Après, notre interview de Mathis montre à quel point il avait aussi beaucoup de maturité et de recul, je pense, sur tout ce qui se passait. C'était assez, assez marquant.
Oui,
ça va convaincre.
J'en reste médusée.
Voilà, ça pourrait convaincre les gens qui utilisent l'argument de l'immaturité ou je ne sais quoi pour parler, pour décrédibiliser les mobilisations lycéennes et étudiantes.
Non, en tout cas, moi je pense qu'il faudra vraiment qu'on s'unisse à la rentrée pour continuer à porter ces luttes qu'on a en tant qu'étudiants et lycéens et puis des luttes nationales évidemment qui vont se pointer
carrément.
Tranquillement.
J'ai hâte.
Et d'ailleurs, je pense qu'on va peut-être diffuser un dernier son pour donner une petite idée aux salariés de ce qu'ils pourraient faire éventuellement lorsqu'arrivera la réforme des retraites à la rentrée. Sur ce, on vous souhaite un bon samedi. On vous retrouve dans un mois pour une nouvelle émission et on vous souhaite une bonne écoute.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on drague. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai, fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on drague. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on drague. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Thank you.